Bienvenue sur Triple Négatif, le podcast qui parle du cancer du sein du même nom. Savez-vous qu'il existe 4 cancers du sein à l'heure actuelle? Le cancer du sein triple négatif touche principalement des femmes de moins de 40 ans. Il concerne entre 15 et 20% du cancer du sein. Dans ce podcast, je vous expliquerai ses particularités, pourquoi c'est un cancer qui se soigne mal, mais aussi toutes les étapes de ce que je vis actuellement. Je suis Émilie Dodin, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants de moins de 4 ans, j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé 2 podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. En ce mois d'octobre rose, le laboratoire Pierre Fabre lance la campagne Our Breast Journey pour sensibiliser sur le cancer du sein, au niveau du parcours de soins des patients, mais aussi de celui des personnes qui les entourent. Cet épisode de podcast, du coup, est en collaboration avec eux et nous allons pouvoir expliquer quoi faire si vous découvrez que vous avez une anomalie au niveau de votre sein. Déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près 61 000 femmes chaque année qui sont malheureusement concernées, touchées par le cancer du sein. On dit que ça touche une femme sur 8 et parmi ces femmes, il y a également 1% d'hommes qui sont également touchés par le cancer du sein. Donc ce n'est pas l'affaire que des femmes, c'est aussi l'affaire des hommes. C'est vraiment une affaire qui touche tout le monde. Malheureusement, le cancer du sein ne fait pas de distinction, qui que vous soyez, selon l'âge que vous avez. En fait, c'est vraiment un cancer qui est insidieux, qui est vicieux et qui, malheureusement, peut arriver à n'importe quel âge. Que vous ayez des prédispositions génétiques ou non. Par exemple, dans mon cas, je n'en avais pas et malheureusement, à 33 ans, lors de mon diagnostic, j'avais ce cancer du sein triple négatif qui m'a été annoncé. Ce n'était pas prévu à la base. Ça a été pour moi un peu la douche froide. Je pensais que le cancer, c'était pour les autres, que ça touchait principalement les personnes âgées et j'ai découvert avec stupeur que ce n'était pas le cas. Donc j'avoue que ça a été un peu la grosse douche froide. Et il y a une question qui arrive vraiment régulièrement, c'est, on parle beaucoup de l'autopalpation comme vous avez pu le voir, et en fait on se demande qu'est-ce qui se passe une fois que l'on découvre une anomalie sur son sein, que ce soit une boule, que ce soit un changement de la couleur du pot de votre sein, changement de l'aspect de votre sein, s'il devient granuleux ou autre, si vous avez une déformation de votre mamelon, si vous découvrez des boules, si vous découvrez une boule au niveau de votre creux axillaire, etc. Enfin bref, si vous trouvez que il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose déjà, c'est d'aller voir votre médecin traitant. Votre médecin traitant, c'est vraiment la personne référente pour votre santé. Elle peut soit vous faire une palpation et découvrir effectivement qu'il y a quelque chose. Donc à ce moment-là, vous prescrire une ordonnance pour avoir une échographie mammaire suivie d'une mammographie en cas d'anomalie. Et ensuite, vous pouvez également aller voir votre sage-femme tout de suite. Vous pouvez aller voir une gynécologue si vous avez déjà un contact de gynécologue. Mais il ne faut pas en fait prendre ça à la légère en disant c'est trop compliqué, etc. Il y a aussi en France, dans plusieurs villes de France d'ailleurs, je dirais même que dans toutes les grandes villes, il y a des parcours sains ou des diagnostics un jour. C'est-à-dire, par exemple, à Rouen, vous avez la clinique Mathilde et je sais que vous pouvez y aller. Bon, c'est une journée en fait qui est dédiée chaque semaine à consultation pour les personnes qui veulent savoir s'il y a une anomalie ou pas. Vous y allez, vous passez une échographie mammaire suivie d'une mammographie. S'il y a quoi que ce soit, vous avez une biopsie et normalement, quelques jours après, vous avez les résultats. Et la même chose à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Ma chirurgienne m'en avait parlé et c'est comme ça que j'ai découvert ce fameux parcours sain. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et je trouve que ça mérite d'être connu parce que beaucoup de personnes ne savent pas où aller quand on découvre qu'on a une boule dans le sein. Moi-même, quand j'ai su que j'avais un problème dans le sein, je ne savais pas du tout où aller. Donc moi, je suis quand même allée voir ma sage-femme parce que je venais d'avoir un bébé, que effectivement, c'était la personne qui me suivait, qui s'occupait de ma santé, même si elle s'occupait de la rééducation de mon périnée. C'est elle qui m'a fait une palpation, qui malheureusement n'a pas donné le bon diagnostic. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de pas hésiter à déjà aller voir un professionnel de santé et surtout, si vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre, ne pas hésiter à aller en consulter un deuxième. Pourquoi j'en parle? Parce que malheureusement, des erreurs de diagnostic, ça arrive. Les médecins ne sont pas non plus la science infuse et les médecins, par exemple, peuvent se tromper et ça arrive. Parce que par exemple, moi, on me disait que le cancer du sein ne faisait pas mal. Et ben, en fait, j'avais des douleurs. Tout a commencé chez moi par des douleurs avant l'arrivée même des boules que je puisse les sentir. Et quand je parle des boules, je parle des tumeurs qui étaient dans mon sein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est complètement perdu. Moi-même, j'étais perdue alors que dans quelques semaines avant d'avoir eu ce diagnostic, j'avais essayé quand même de prendre rendez-vous chez le radiologue de ma ville et je m'étais trompée. En fait, j'avais été voir un radiologue qui ne prenait pas de consultation en ligne, de rendez-vous en ligne, alors qu'en fait, l'autre où j'avais vu en prenait. Donc bref, j'étais complètement perdue. Et je trouve qu'on n'est pas forcément très bien aiguillé quand on se découvre une boule dans le sein, qu'on aimerait quand même vérifier qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas où aller. C'est vraiment, je crois que c'est la chose la question qui est le plus revenue, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Donc moi, je conseille vraiment aux personnes qui m'écoutent, qui me suivent, c'est si vous découvrez une anomalie, que l'anomalie, elle dure quelques jours. Des fois, on peut avoir une anomalie, par exemple, une boule dans le sein. Ça arrive régulièrement selon votre cycle. Moi-même, sur mon sein qui est actuellement sain, donc le sein gauche qui n'a pas été touché par la maladie, je me rends compte qu'au moment de mes règles, avant d'avoir mes règles et pendant mes règles, j'ai une boule dans le sein qui arrive et qui peut me faire mal. Et j'avoue que bah moi, j'ai eu un cancer, donc forcément, j'ai peur. Et en fait, je me rends compte, après chaque fois que mon cycle est terminé, je n'ai plus du tout de boule dans le sein. Et ça, c'est un bonheur. Parce que ça veut dire qu'en fait, c'est juste hormonal. La règle, c'est s'autopalper tous les mois. Dans les deux jours qui suivent la fin de vos règles, c'est là où vos seins sont, entre guillemets, parfaits. Il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien dedans. En fait, ils sont propices à la découverte de tumeurs. Voilà, tout simplement. S'il y en a, s'il y a une anomalie, vous le découvrez à ce moment-là. Parce qu'effectivement, pendant les règles, c'est normal d'avoir des boules dans le sein, c'est normal d'avoir des changements, etc. Mais après les règles, dans ces deux jours qui suivent, le sein est vraiment, il est exempté de tout ça. Donc voilà, ne pas hésiter à faire ça. Si vous découvrez quelque chose, notez-le. Notez-le, il y a des applications qui existent, par exemple Keep a Breast a cette possibilité-là, etc. Ou mettez dans vos notes de téléphone. C'est important de se connaître. En fait, c'est en se palpant aussi tous les mois que vous allez pouvoir découvrir rapidement s'il y a une anomalie quelque part. Des fois, c'est aussi le partenaire qui découvre une boule, que ce soit dans le creux axillaire ou dans votre sein. On est tous acteurs à ce niveau-là. Mais ensuite, où est-ce qu'on va? Eh bien, c'est très simple, comme je vous le disais. D'abord, médecin. Ensuite, sage-femme ou gynécologue. Donc, ce sont les trois professionnels qui peuvent vous établir ce fameux sésame, cette échographie mammaire qui va pouvoir voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou sinon, si vous êtes complètement perdu, etc., qu'il y a des rendez-vous qui sont très longs, cherchez dans vos villes, en fait, si vous avez droit à ce parcours sain ou ce diagnostic un jour. Selon les villes, en fait, il n'y a pas une seule appellation pour cette démarche. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, je trouve. Je rêve du jour où, en fait, tout sera regroupé sur un site et qu'on pourra retrouver, par exemple, dans tel département, c'est tel hôpital avec tel horaire, etc. Je rêve de ce jour. Donc, voilà, c'était vraiment la première étape, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire ça, donc vous allez avoir votre échographie mammaire, votre mammographie, votre biopsie s'il y a quelque chose, et quelques jours après, les résultats. Si c'est dans un cadre classique, c'est-à-dire que vous allez voir le radiologue en ville, les résultats peuvent arriver au bout de plusieurs jours. Ça peut être entre une semaine à trois semaines. N'hésitez pas à demander un rendez-vous plus rapide et à consulter sur Internet d'autres sites où vous pouvez avoir un rendez-vous plus rapidement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est hyper stressé quand on passe cet examen et qu'on attend les résultats. Et plus l'attente est longue, des fois, plus le cancer peut se propager s'il y a un cancer. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser les portes, à essayer d'aller voir ailleurs et ne pas hésiter exactement en fait à ne pas attendre parce que l'attente est consumante. L'attente peut vous faire du mal, l'attente est stressante et vous n'avez pas besoin de ça en ce moment-là. C'est la première chose que je dirais. Ensuite, il y a aussi beaucoup de mythes sur la mammographie. Beaucoup de personnes ne font pas leur mammographie. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de passer leur sein dans cette machine, parce qu'on nous dit que ça fait mal, etc. Pour mon expérience personnelle, la première fois que j'ai eu cette mammographie, j'étais un peu sonnée parce que j'avais eu mon échographie juste avant qui m'annonçait qu'il y avait un souci. Donc j'étais anesthésiée, je me suis laissée guider par la radiologue. J'ai passé cet examen qui a duré même pas 2 minutes. Alors j'avais quand même des tumeurs dans le sein. Il faut quand même savoir que j'avais 6 tumeurs. C'était vraiment pas très agréable, mais je n'ai pas eu super mal. Enfin, c'est-à-dire que ça fait mal, mais ça fait pas mal en fait. C'est dérangeant. Voilà. Pour dire que c'est dérangeant, ça pince un petit peu, mais ce n'est rien comparé à d'autres traitements derrière en fait. Donc j'ai toujours aux femmes, on a toutes peur. Et ça, je le comprends très bien parce que même moi, j'ai toujours peur quand je passe les examens, etc. Mais la peur n'évite pas le danger. Et surtout, vous allez vous retrouver tellement soulagée une fois que vous aurez passé cet examen que ça vaut tout l'or du monde. Et si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez aussi vous dire que vous avez pris votre santé en main. Et ça n'a vraiment pas de prix. Maintenant que vous avez passé votre biopsie, que vous avez eu les résultats, certaines personnes du coup vont découvrir qu'elles ont malheureusement un cancer du sein. Qu'est-ce que vous devez faire? Une fois que vous avez eu votre diagnostic de cancer du sein, avec le rendez-vous avec le chirurgien ou la chirurgienne, vous allez devoir passer soit une IRM mammaire pour vérifier si le cancer est ailleurs, par exemple, et vous allez passer, un TEP scan. Le TEP scan, c'est quoi? C'est un examen du corps. Il faut être à jeun pendant moins de 12 heures. Ça dure à peu près une heure et ils vont vérifier si le cancer s'est propagé ailleurs. C'est là qu'on va établir le stade de votre maladie, c'est-à-dire qu'on va vérifier si vous êtes stade 1, c'est-à-dire que c'est local. Stade 2, un local mais assez gros. Stade 3, les ganglions sont touchés et stade 4, il y a des métastases ailleurs. Le cancer s'est baladé malheureusement sur d'autres organes ou dans d'autres parties du corps. Ça va vraiment adapter votre traitement en fonction de ce résultat. Donc c'est un examen qui est très important, qui est indolore clairement, mais qui va vraiment vous permettre d'être fixé en fait sur votre maladie et son stade. Ensuite, vous allez avoir un peu plus tard la pose de la chambre implantable ou de la PICC line. Alors la PICC line, c'est des perfusions sur le côté, sur dans votre bras, et on vous injectera directement dessus la chimiothérapie. La chambre implantable, ou le PAC comme on dit, le port à cathéter, c'est un petit boîtier qu'on va vous insérer au niveau des clavicules, un petit peu en dessous des clavicules. C'est là que vous recevrez votre chimio, c'est là où on va se piquer sur cette chambre pour directement vous envoyer la chimiothérapie. Généralement, ça se fait sous anesthésie locale. Ça ne dure pas très longtemps. C'est désagréable quelques jours au niveau du cou parce qu'il y a des petits fils qui passent. Mais ensuite, franchement, on s'y habitue en fait. Et ça permet vraiment d'éviter d'abîmer trop les veines parce qu'on a des prises de sang tout le temps. Et on ne va pas se mentir, les veines prennent très cher à ce niveau-là. Certains médecins, certaines personnes qui vous suivent, vont vous conseiller des personnes, c'est-à-dire soit des oncologues, soit des chirurgiens qu'ils connaissent. Mais il ne faut pas hésiter à demander aussi autour de soi, par exemple votre voisine, une amie, une collègue, des gens de votre famille sont peut-être également passés par la maladie, peut-être habitent près de chez vous et sont peut-être aussi allés dans des centres également près de chez vous. Je vous parle de ça parce que le bouche à oreille est hyper important. Moi j'ai eu cette chance incroyable d'avoir des amis qui ont tout de suite, dès le début, pris en charge mes rendez-vous, m'ont dit tu vas te faire opérer par telle personne. Par contre pour la chimiothérapie, vu que j'habite à Rouen et que si j'étais diagnostiquée à Paris et que j'habite vraiment à 10 minutes à pied d'un super centre de lutte anti-cancer qui est Henri Becquerel, il y en a 20 en France, j'en reparlerai après, ça permet vraiment de me dire bah en fait moi j'ai envie de passer ma chimiothérapie à Rouen parce que c'est quand même très fatigant. Pareil pour la radiothérapie, mais vu que du coup c'est cette chirurgienne qui m'a diagnostiquée et qu'elle est très bonne dans ce qu'elle fait, eh ben j'ai décidé du coup que c'était elle qui allait m'opérer. Mais il ne faut pas hésiter à demander. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent demander autour d'elles, en fait, d'avoir différents avis. On peut aujourd'hui vraiment aller voir tel oncologue pour voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Certains centres aussi proposent des essais cliniques qui vont nous permettre de pouvoir rentrer dans un essai et tester un nouveau protocole de traitement innovant. Donc ça sert à ça, les essais cliniques. Mais sinon, globalement, tous les centres proposent la même chose. Mais, je dis bien un grand mais, je trouve que les centres de lutte anti-cancer donc, sont gratuits. Il y en a à peu près 20 en France, dans toutes les régions. Ils permettent quand même d'avoir accès à des soins de support, quand même de pouvoir, en fait, d'être dans cet univers qui est vraiment basé sur l'oncologie, basé sur le soin, basé sur le patient. Et en fait, là-bas, bah moi, je me suis sentie à ma place, tout simplement. Et c'était vraiment important pour moi parce qu'en fait, je me suis vraiment sentie écoutée, comprise. Et même aujourd'hui, quand j'y retourne, bah en fait, je me sens à ma place. C'est-à-dire que je n'ai aucun souci à remonter dans les services de chimiothérapie, aller voir les radiologues, aller voir les médecins. Je me sens pas oppressée. Voilà, on ressent toutes les choses différemment, mais ça, c'est pour vous expliquer un petit peu. Donc moi, j'ai vu ce rendez-vous avec la chirurgienne qui m'a annoncé que j'avais un cancer du sang, qui m'a expliqué les protocoles, mais sur le coup, clairement, on va pas se mentir, vous allez peut-être du coup être sourde à ce qu'on va vous dire. Et c'est normal. Qui ne s'écroule pas quand on lui annonce qu'elle a une maladie qui est vraiment difficile? Bah, personne. Je veux dire, c'est normal. C'est tout à fait normal de ne pas se sentir à la hauteur, de se sentir très mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que personnellement, je suis devenue sourde, mais j'essayais quand même de me raccrocher à ce qu'elle disait. Donc j'avais lu entre-temps, entre le moment de la biopsie et le moment de l'annonce, des livres sur le cancer pour pouvoir comprendre ce à quoi j'allais m'attendre, tout simplement. Ça peut être écouter mes épisodes de podcast, lire des livres, il y a pas mal de livres. Moi, j'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle Dans mon sein aux éditions Plomb. J'avais lu le livre de Géraldine Dormois, Un cancer pas si grave, qui explique du coup les traitements, etc. Du coup, j'étais au courant. Donc, quand on me parlait de Taxol, quand on me parlait de EC, etc., bah, je comprenais. Il faut pas hésiter à lire et surtout à se dire ok, j'ai une maladie, qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'être maître de son cancer, de sa maladie, ça vous permet vraiment de pouvoir avoir un dialogue avec votre oncologue qui vous suit et de voir que vous êtes à l'écoute, qui peut vous parler de choses que vous pouvez comprendre. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous pouvez demander à votre entourage de vous aider à essayer de comprendre, etc. Mais en 2024, vous pouvez vraiment poser des questions à votre oncologue si vous ne comprenez pas. Voilà, c'était important que je le dise. Donc, j'ai eu ce rendez-vous à Paris, la petite salpêtrière. Et ensuite, j'ai demandé à une de mes amies qui est psychologue, à Becquerel, quel était le médecin, en fait, que je pouvais voir, qu'est-ce qu'elle me conseillait pour un suivi. Parce qu'en fait, j'étais perdue, je ne savais pas, en fait, que tous les médecins ne se valaient pas. Je parle de ça humainement. Je veux dire qu'on n'a pas tous le même feeling avec tout le monde et c'est normal. Donc voilà, donc j'ai eu cet oncologue qui est incroyable, que j'adore, qui a été vraiment humain, sans être dans le pathos, mais sans être non plus dans la joie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne les choses, qui ne m'a jamais dit « Madame Dodin, je vais vous guérir ». Voilà, il a été clair et net avec moi. Donc il faut voir avec vous quelle est votre sensibilité avec ça. Moi, j'aime les gens qui ne me mentent pas, qui vont me dire les choses telles qu'elles sont. Et c'était vraiment le cas avec cet oncologue, c'est pour ça que je le remercie. Et c'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup aidé à me pencher vers la suite. Mais si ce n'est pas votre cas, essayez de demander du coup un oncologue plus humain, plus positif, etc. C'est-à-dire soit vous pouvez aller sur des forums de discussion, dans des groupes de soutien, à la Ligue par exemple, soit vous pouvez aller demander, comme je le disais, à vos amis. Et en fait, c'est comme ça que vous allez avoir des rendez-vous avec telle ou telle personne qui vont pouvoir du coup vous guider sur ce parcours. Donc quand vous avez ce rendez-vous avec l'oncologue et qu'il va vous expliquer par exemple, on va commencer par telle chimiothérapie pendant 4 cycles, peut-être couplé avec de l'immunothérapie pendant 8 cycles. En fait, c'est des cycles, c'est des semaines. En fait, vous allez comprendre tout ça après une fois que vous serez dedans. Et bien en fait, au fur et à mesure, ça ne rentre pas. C'est au début, c'est normal. Moi, j'étais complètement perdue et c'était du langage chinois. Je ne comprenais absolument rien à ce qu'on me disait. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre et c'est tout à fait normal. On commence souvent, de plus en plus, par de la chimiothérapie, par exemple si c'est un cancer du sein triple négatif, pour d'abord faire diminuer la taille de la tumeur et voir si le cancer répond au traitement. C'est vraiment important pour nous, pour les triple négatifs. Ensuite, vous avez la mastectomie ou la tumérectomie avec le curage ou non axillaire. Donc le curage axillaire, c'est là où on va vous retirer les ganglions. Soit si vous êtes stade 3, on va vous retirer les ganglions qui sont touchés par le cancer ou les ganglions sentinelles pour vérifier si les ganglions sentinelles du coup ne sont pas touchés. Si on pas touché, pas de curage. Moi-même, je n'ai pas eu de curage axillaire. J'ai juste eu 2 ganglions sentinelles enlevés et j'ai à ce jour une mobilité quasi complète du bras. Voilà, donc je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Je n'ai pas souci de gros bras ou autre. Donc après la mastectomie, comme je le disais, vous avez la radiothérapie. Le protocole change régulièrement, donc ça peut être X semaines. Moi, c'était 5 semaines. Vous allez tous les jours, du lundi au vendredi, pour des rayons, donc des radiothérapies. Ça dure à peu près 5 minutes à tout casser, mais bon, il y a un peu d'attente. Et ensuite, vous rentrez chez vous. Et ça vous permet en fait vraiment de traiter les éventuelles cellules cancéreuses qui se baladent dans le corps. Personnellement, je n'ai pas été brûlée sur le sein. Et aujourd'hui, j'ai une très belle reconstruction, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Et j'ai vraiment un très très beau rendu, ma peau est très belle aujourd'hui, je suis très contente. Donc j'en parle parce que ça fait toujours très peur, mais voilà, n'ayez pas peur. Donc voilà, à peu près, vous avez à peu près pour 9 mois de traitement, 9 à 12 mois, certains 18 mois selon l'intensité des traitements. Et parfois, si vous avez par exemple un stade 4 avec des métastases ailleurs, vous pouvez avoir un traitement à vie. Ça s'appelle une maladie chronique. En fait, vous allez avoir régulièrement un traitement qui va vous permettre de maintenir votre corps, soit pour endormir les cellules tumoreuses, soit pour vous permettre de ne pas récidiver. Très sincèrement, tout ce que je peux vous dire, ça peut faire peur. Mais en fait, la chimiothérapie, c'est un mot qui fait vraiment peur parce qu'on s'imagine qu'on va être tout le temps dans son lit et ne rien faire de sa vie. Certaines personnes peuvent le vivre ainsi, mais je peux vous assurer que moi, j'ai réussi à maintenir une vie normale. J'avais des enfants en très bas âge. Ma fille venait juste d'avoir 1 an, la veille de ma mammographie. Donc, je peux vous dire que c'est pas le meilleur anniversaire de ma vie, pas le meilleur souvenir, mais on s'en sort. Mon fils avait 3 ans, il venait juste de rentrer en maternelle. Et maintenant, il a 7 ans, il est en CE1 et il a 3 dents en moins, là, actuellement. Il me regarde actuellement au moment où j'enregistre cet épisode. Donc, en fait, je veux dire par là, c'est que la vie, elle continue. Ça fait vraiment peur d'avoir un cancer, mais parce que c'est un mot qui fait peur. Mais je peux vous assurer qu'il faut s'accrocher à la lumière et que c'est normal, des fois, d'avoir envie de pleurer. C'est normal de se dire qu'on ne va pas y arriver. Mais je vous assure que vous avez tous et toutes des ressources en vous qui vont vous permettre d'avancer et de vous rapprocher des personnes qui traversent la même chose pour vous faire un bien fou, ne pourra que vous faire du bien, ne pourra que vous permettre d'aller mieux. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est d'aller mieux et de se dire que la vie n'est pas terminée parce que vous avez ce diagnostic de cancer. Du coup, j'en profite pour remercier les laboratoires Pierre Fabre qui m'ont permis de réaliser cet épisode directement chez moi, pour triple négatif. Et je suis très heureuse de pouvoir m'associer à eux et de pouvoir vraiment faire un mini épisode pour vous parler vraiment concrètement, qu'est-ce qui nous attend si on découvre une boule dans le sein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur @triplenegatif sur Instagram ou également @emiliebrunette et laissez 5 étoiles sur votre lecteur de podcast préféré, que ce soit Apple, Spotify, etc. pour faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.